France Musique.
Émilie du Châtelet ou l'ambition féminine au XVIIIe siècle. Plus connue sous le nom d'Émilie, Gabrielle de Breteuil, devenue marquise du Châtelet par son mariage, appartient à la grande noblesse de robe. Gabrielle Émilie naît le 17 décembre 1706. Son père, Louis-Nicolas, est introducteur des ambassadeurs à la cour de Louis XIV. C'est lui qui choisit de lui donner la même éducation qu'à ses deux frères aînés. Il fait alors venir au domicile familial des précepteurs qui lui enseignent le latin, les mathématiques, les langues étrangères, le cheval, la gymnastique, le théâtre et la danse. Émilie est douée aussi pour la musique et joue du clavecin avec brio. Mais surtout, elle aime chanter. À 12 ans, Émilie lit couramment l'allemand, l'anglais, le grec et le latin. 3 ans plus tard, Locke, Descartes et Leibniz n'ont plus de secret pour elle. Si sa première passion est pour l'étude, son deuxième grand amour sera pour les vêtements, les diamants, les pompons, les chaussures, le maquillage. Elle découvre les splendeurs et extravagances de la cour à l'âge de 16 ans, lorsque son père la présente à Versailles pour la première fois. Les Breteuil habitent un hôtel donnant sur les Tuileries. Son père, amoureux des belles lettres, y organise un petit cercle littéraire. Parmi ses habitués, le poète Jean-Baptiste Rousseau, l'écrivain Voltaire, mais aussi l'illustre Fontenelle, homme d'esprit et de science, précurseur des Lumières. Émilie n'a que 12 ans lorsqu'elle reçoit ses leçons scientifiques. À 19 ans, Émilie épouse le marquis Florent-Claude du Châtelet. Comme souvent à cette époque et dans cette société, le mariage est arrangé. Mais Émilie n'est guère encombrée par ce mari qui est militaire et passionné de chasse. Elle lui donne 3 enfants, puis considère son devoir conjugal accompli. Tous deux tombent alors d'accord pour vivre des vies séparées. Émilie aspire à tous les plaisirs, des jeux d'argent à ceux de l'amour, en passant par la comédie. Une remarquable collection d'amants illustre sa très fière liberté aux yeux d'une société codifiée. Comme toute femme des Lumières, Émilie du Châtelet n'est guère intéressée par l'éducation de ses enfants et sa grande intelligence l'éloigne des autres femmes. Elle ne porte d'ailleurs aucun intérêt aux ragots et aux conversations futiles. Les femmes de son temps n'ont pas accès à l'enseignement supérieur. Alors Émilie loue les services de professeurs qui viennent lui enseigner la géométrie, l'algèbre, le calcul et la physique. Elle passe entre 8 et 12 heures chaque jour dans son bureau à lire et à écrire. Émilie lit tous les livres importants. Elle va aussi régulièrement au théâtre et se rend fréquemment à l'opéra. Les Indes galantes, Castor et Pollux offrent le reflet de cette musique française que défend la Pompadour. Rameau, ou le Descartes de la musique selon D'Alembert, est au cœur de la querelle des bouffons qui anime tous les salons parisiens. Émilie du Châtelet s'intéresse à tout, fait tout jusqu'à l'extrême. Elle se passionne alors pour le travail du savant anglais Isaac Newton, l'auteur de la loi de l'attraction universelle. C'est auprès du grand savant Moreau de Maupertuis, membre de l'Académie des sciences et fervent défenseur des théories de Newton, qu'elle approfondit ses connaissances en géométrie, astronomie et physique, mais aussi celle de l'amour en devenant sa maîtresse. Émilie souhaite assister aux réunions régulières du mercredi où sont débattues les dernières avancées scientifiques. Mais en tant que femme, elle n'y est pas autorisée. Les philosophes, scientifiques et mathématiciens ont aussi pour habitude de se retrouver au café Grado situé quai des Écoles à Paris. Là encore, Émilie ne peut se joindre à eux. Alors, elle se fait confectionner un ensemble de vêtements d'hommes, réussit à entrer dans le café et se joint à la table de Maupertuis et ses amis. Tous l'acclament et commandent une tasse de café pour elle. C'est ainsi qu'elle devient une habituée de chez Grado. On la remarque sans rien dire. Elle est toujours remarquablement habillée, mais en homme. Dans son enfance, Émilie a croisé le regard de l'écrivain philosophe chez son père, le baron de Breteuil. Puis ils se sont perdus de vue. Certainement, ils ont entendu parler l'un de l'autre. Émilie a lu Voltaire. Elle a vu ses pièces de théâtre. Paris découvre Zahir, qui remporte un énorme succès. Puis au printemps 1733, Émilie se rend chez son amie, la duchesse de Saint-Pierre. Voltaire est là. la marquise à 27 ans, Voltaire 39. Immédiatement, ils se sentent attirés l'un par l'autre et deviennent inséparables. Ils vont à l'opéra, au théâtre, soupent dans les meilleurs restaurants et se présentent ensemble aux audiences royales à la cour. Ils en oublient les règles de bienséance, mais pour Émilie et Voltaire, ces règles sont pour les autres. Ils s'aiment. Évoquant Émilie, le poète écrit à l'un de ses amis. Tout en elle est noblesse, son attitude, ses goûts, sa manière de parler, sa politesse. Émilie a le bonheur de découvrir en son nouvel amant un homme tout autant passionné qu'elle par Newton. Voltaire a lu l'œuvre du philosophe mathématicien lors de son séjour forcé en Angleterre. Et il commence alors à s'intéresser à la nouvelle physique de l'attraction développée par l'anglais contre la théorie des tourbillons du français René Descartes. En 1735, Voltaire doit quitter Paris précipitamment sous la pression policière. Ses lettres philosophiques rédigées en Angleterre sont une condamnation implicite de la monarchie française. Et le Parlement de Paris le comprend sans peine. Le livre est alors condamné à être lacéré et brûlé, mais il remporte un succès international. Voltaire doit fuir. C'est dans le vieux château de Siret, situé en Lorraine, qu'il trouve refuge. Cette vieille demeure, délabrée, appartient au mari d'Émilie. De bonne nature, ce dernier accepte que Voltaire séjourne au château. Le poète lui offre alors 40 000 francs pour le rénover, ainsi qu'une maison de campagne pour chasser. Dès l'été, Émilie rejoint Voltaire. Tous deux entament avec passion une vie d'amour, de théâtre et d'études, et les travaux de rénovation. Émilie est fière de ses bibliothèques, de son assez beau cabinet de physique, des télescopes, des quarts de cercle, nous dit-elle. Elle s'entoure d'instruments de tout genre, mathématiques, physiques, astronomiques, mécaniques. Chaque matin, Émilie et Voltaire commentent un passage de la Bible, réfléchissent ensemble sur des sujets de philosophie morale, d'histoire ou de métaphysique. Et le soir venu, après une journée de travail, on propose aux invités du château de jouer une pièce de théâtre. Ils sont là comme des philosophes voluptueux, confie Voltaire. Ils s'aiment de tout l'amour possible, loin des salons et des mondanités, loin des regards jaloux et des médisances. Leurs meilleurs compagnons sont les compas et les livres. En 1737, l'Académie des sciences lance un concours sur la nature du feu et sa propagation. Voltaire s'inscrit. Il reprend alors la théorie des quatre éléments d'Aristote. Comme le feu est une substance matérielle, il a du poids. Pour le démontrer, Voltaire se rend aux forges voisines de Siret et réalise ses expériences. Émilie n'en manque pas une seule et elle n'est pas convaincue par les conclusions de Voltaire. Elle décide alors de concourir en cachette et rédige la nuit une dissertation de 139 pages. Elle tente de faire une synthèse de toutes les connaissances sur le sujet. Aucune femme n'a encore émis à ce jour d'opinion personnelle. Ses idées sont parfois curieuses et elle a conscience de leur étrangeté. Elle n'obtient pas le prix, Voltaire non plus. Mais pour la première fois, les écrits d'une femme sont publiés. Ce privilège donne à Émilie du Châtelet une place inédite au sein de la communauté scientifique française. Après son succès à l'Académie des sciences, Émilie se jette à corps perdu dans la recherche. Mais le trouble s'installe dans sa vie. Une crise grave secoue le couple. Après 15 années d'amour fondé sur le partage des savoirs, Voltaire la trompe. Amoureuse, à la fois passionnée et protectrice, elle convertit peu à peu ses sentiments en une pure amitié. Cet équilibre, cette sagesse intérieure vont lui permettre d'écrire, de faire le point à un moment décisif. Émilie entreprend en 1745 la grande œuvre de sa vie, la traduction en français du texte latin « De Philosophiae Naturalis Principia Mathematica » de Newton. Il lui faut 5 années pour accomplir cette lourde tâche. Elle corrige sans arrêt ses textes, refait inlassablement ses calculs. Ce travail de traduction et d'enrichissement du texte de Newton par Madame du Châtelet reste une référence aujourd'hui encore. En 1748, Émilie rencontre Saint-Lambert, un poète médiocre, vaniteux et froid. Elle en tombe amoureuse et s'apprête à vivre la dernière grande passion de sa vie. Elle perd toute lucidité, toute autonomie. Son amour la dévore. Elle tombe enceinte et pressent sa mort prochaine. Elle écrit alors au bibliothécaire du cabinet des manuscrits de la Bibliothèque royale. Elle demande à enregistrer son manuscrit. Émilie a peur de ne plus être là pour contrôler le document imprimé. Elle veut pérenniser son œuvre et passer ainsi à la postérité. La mort l'emporte le 10 septembre 1749. Voltaire confie alors à Frédéric II, roi de Prusse, « J'ai perdu un ami de 25 années, un grand homme qui n'avait le défaut que d'être femme, et que tout Paris regrette et honore. » C'est l'écrivain qui publie l'œuvre d'Émilie.
À réécouter sur francemusique.fr.